Merci beaucoup Marie-Alix Autet. Prochain journal à 9h sur France Culture. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Secret des Sources.
Il me suffit de te voir, je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources, Frédéric Mettezo.
Cela fait bientôt 4 ans que le secret des sources existe sur France Culture et quasiment à chaque émission, les confrères et consoeurs nous parlent de l'impact des chaînes d'information en continu sur leurs pratiques professionnelles, comme si LCI, France 24, iTélé et BFM TV donnaient de plus en plus le ton, le « la » médiatique, comme si leur façon de traiter l'information s'imposait peu à peu à tous. Y a-t-il une BFMisation de la vie médiatique? Comment l'information en continu influence-t-elle notre vie publique? Nous en parlons ce matin sur France Culture avec Hubert Huertas. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Ancien journaliste à France Culture, aujourd'hui chroniqueur à Mediapart. Vous êtes l'auteur de L'effet BFM aux éditions UPPR. En studio avec nous à Paris, Hervé Bérou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'information de BFM TV. Pour vous écouter tous les deux, pour nourrir et peut-être arbitrer le débat, une grande connaisseuse des milieux médiatiques et politiques, Michel Cotta, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, passé par L'Express, Le Point, France Inter, RTL, TF1, Antenne 2. Vous avez aussi présidé Radio France, Notre Maison et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Quel CV, mais aussi quel recul pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans l'univers médiatique français. En cours d'émission, nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, correspondant de Radio France aux États-Unis, où naquit la première chaîne d'information continue, CNN, c'était en 1980. Le débat est ouvert, il vous est ouvert, on vous attend sur Twitter et Facebook.
Édition spéciale sur BFM TV. François Hollande vient d'annoncer...
On se retrouve lors de cette édition spéciale sur iTélé consacrée au crash d'hélicoptère en Argentine qui a fait 10 morts dont 8 Français.
Bonjour et bienvenue dans le 14-17. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'actualité.
Merci Jérémy pour toutes ces précisions. Je vous rappelle cette information qui vient de nous parvenir. C'est l'annonce de la soirée.
Il est 11h29. Des rafales.
Deux minutes même.
Deux minutes d'échange de feu extrêmement nourri. Nous ignorons évidemment ce qui se passe.
Le secret des sources.
Voilà, vous venez d'entendre un aperçu rapide de ce à quoi peut ressembler une journée d'information sur plusieurs chaînes françaises d'information en continu. Il y a deux chaînes gratuites sur la TNT, BFM TV et iTélé, deux chaînes payantes, France 24 et LCI. Mais il semble bien que BFM TV émerge dans cet univers, sans doute parce qu'elle est la plus regardée des quatre. Alors Hubert Huertas, vous venez de publier, je l'ai dit, un essai qui s'appelle « L'effet BFM ». Dites-moi Hubert, vous écrivez dans votre essai « BFM TV n'a pas inventé les bavures de l'info en continu, mais elle les amplifie ». Votre essai s'appelle « L'effet BFM », mais pourquoi distinguer BFM? Cette chaîne vous a fait quelque chose en particulier?
Ben, je vais vous répondre très clairement. Mon livre, il analyse un effet en chaîne et pas une chaîne de télé en particulier. Cet effet, ben, je l'appelle effet BFM. Pourquoi? Tout bêtement, parce que BFM est la figure de proue de ce qui se passe dans les médias français avec les chaînes d'information en continu. Cet effet, il est général, il n'est pas seulement médiatique, il touche tous les secteurs d'expression de la société. L'édition, par exemple, il y a un effet, il y a une accélération, et le monde politique, n'en parlons pas, il est complètement embringué dans cet effet BFM. En fait, à mon avis, l'effet BFM concerne la représentation du pays et dans les deux sens du terme, sa représentation au sens de ceux qui le représentent, qui parlent au nom du pays, et puis sa représentation au sens théâtral. Ça tombe bien, le Festival d'Avignon où je me trouve vient de commencer. L'effet BFM, en fait, il modifie, à mon sens, quelque part l'image que le pays reçoit de lui-même, et ça peut changer le comportement de ces acteurs visibles ou de ces acteurs acteurs les plus audibles. Alors donc, de deux
mais
choses.
Mais Hubert, dites-moi, Hubert Huertas, BFM, oui. Parce que c'est la chaîne qui a le plus d'audience dans ces chaînes d'info continue. Pourquoi pas la itéléisation du paysage?
Mais vous pourriez le dire, simplement, ça correspondrait pas à la réalité. Vous allez dans les ministères, hein, et vous allez, et donc, dans les ministères, la chaîne sur laquelle, en général, je veux pas faire de peine à itélé, d'autant que peut-être qu'on va un peu critiquer BFM aussi, hein, mais la chaîne de référence, et donc, celle dont je me sers de référence, c'est BFM, parce que c'est la figure de proue. Donc, la figure de proue, elle est en avant, et on la voit, et elle devient un symbole. Mais je crois que ce dont nous devons parler aujourd'hui doit être beaucoup plus profond, plus important, plus préoccupant qu'une simple histoire de chaîne à la mode, hein, ou une simple histoire de suffisance ou d'insuffisance médiatique. Ça touche l'ensemble de la société.
Très bien. Alors, on va approfondir le sujet, mais on va donner la parole à Hervé Berrou, qui est donc le directeur de l'information de BFM TV. Hervé Berrou, à entendre Hubert Huertas, vous êtes une figure de proue. Une figure de proue de quoi? Vous avez lu l'essai d'Hubert Huertas, vous l'avez sous les yeux. Vous vous sentez figure de proue de quelque chose?
Nous sommes la chaîne d'information la plus regardée de France. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes en première ligne. Aussi parce que BFM TV n'a que 10 ans, hein, donc nous avons fait bouger le paysage audiovisuel français il y a 10 ans.
Les Français. Pourquoi ?
Nous l'avons fait bouger parce que nous existons. J'y reviendrai, mais entre autres erreurs commises dans l'essai de Monsieur Huertas, il explique au début que nous avons 2 points de part d'audience, ce qui représente 1 million des Français. Ça ne veut strictement rien dire. 2 points de part d'audience, c'est l'audience moyenne de la télévision au quotidien. Donc BFM TV n'est pas regardé par 1 million de téléspectateurs, mais par 10 millions de téléspectateurs chaque jour.
Chaque jour,
36 millions chaque mois. Voilà, 10 millions, voilà. Malheureusement, c'est une des nombreuses inexactitudes de cet essai. Donc nous sommes aujourd'hui, en 10 ans, nous sommes aujourd'hui regardés par 10 millions de personnes au quotidien. Nous avons apporté, avec iTélé d'ailleurs pour le coup, sur le gratuit, la possibilité pour les Français de s'informer à la télévision quand ils le souhaitent et non plus comme c'était le cas il y a encore 10-15 ans, à 13h, à 20h et à 22h30 avec le soir 3. Aujourd'hui, les Français peuvent s'informer quand ils le souhaitent, à n'importe quel moment. Voilà, donc nous avons fait bouger les choses dans le paysage audiovisuel.
Michel Cotta, est-ce que vous avez le sentiment que BFM TV est effectivement la figure de proue de quelque chose ? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une jalousie du premier de la classe ? Vous étiez directrice de l'information de TF1 de 87 à 92. C'était la chaîne ultra dominante à l'époque.
Justement, j'ai trouvé dans l'essai de Huertas quelques mises en cause, évidemment, de ce que TF1 avait fait au moment de la guerre du Golfe. Là, je n'ai pas trouvé d'inexactitude avérée. Simplement, je vais vous dire, c'est facile, quand des années plus tard, vous êtes assis sur une chaise, de commenter ce qui se passait à l'époque. Je vois bien toutes les difficultés, même toutes les excès d'une information continue sur une guerre où nous n'avions pas grand-chose à dire et où on a donné la parole à des gens qui eux-mêmes n'avaient pas grand-chose à dire. Il reste que si c'était à refaire, moi, je le referais, parce que c'était une attention, au fond, portée aux gens. Et je trouve que c'est ça que sont les chaînes d'information continue. C'est parce qu'ils savent qu'il y a 10 millions de personnes en moyenne en France qui ont envie d'une information continue, qu'ils la font avec les défauts, avec les difficultés et avec la rapidité.
Hubert Huertas, toujours en duplex de France Bleu Vaucluse, en Avignon. Avez-vous le sentiment que depuis ces années 90, et notamment la première guerre du Golfe, on a tiré les leçons d'éventuels dérapages ou d'éventuels manquements ou d'éventuelles fautes qui auraient pu être commises à cette époque ?
Grosso modo, non, puisque les dérapages, c'est ce que je dis dans mon livre, et je crois qu'on est mal parti là sur ce débat, parce que d'un côté, si nous devons entrer dans un débat sur le problème de combien d'auditeurs, combien de téléspectateurs, de l'autre côté, je n'ai jamais dit qu'il était facile 10 ans après, et je l'ai tellement peu dit dans ce livre que je décris une bavure que j'ai commise moi-même et qui avait fait beaucoup de bruit quand j'étais dans ma radio locale.
Donc Radio France.
Cela et à Radio France, oui, à Radio France Vaucluse d'ailleurs. Et c'est est-ce que oui ou non, dans la société française, ces chaînes d'infos suscitent des questions, suscitent des interrogations dans le pays? Est-ce que oui ou non, elles peuvent avoir une influence Est-ce que oui ou non, cette question mérite d'être étudiée, ou bien est-ce que en l'étudiant, on va défriser un tel ou un tel ou un tel ou moi-même? Donc,
Hervé Berrou voudrait juste vous répondre un tout petit instant, Hubert Huertas.
Oui. Monsieur Huertas, moi je suis ici pour débattre de tout ça. Les questions que vous posez telles que vous les posez à l'instant me paraissent tout à fait dignes de foi. Effectivement, ça mérite d'en débattre et je suis là pour ça et je n'ai pas peur d'en discuter, d'en débattre et de reconnaître nos faiblesses, nos défauts, etc. Ce qui me gêne profondément à la lecture de votre essai, et j'en ai été très surpris, je dois dire, au-delà de votre réflexion sur ce que nous sommes, ce qu'est l'info en continu, ce qu'est BFM TV, ce que sont les chaînes d'info en continu, c'est que malheureusement, vous dites mieux vaut aujourd'hui pour ces chaînes d'info une connerie d'avance qu'une information de retard.
C'est faux, je ne dis pas ça. Non, je dis ça à propos de nous tous.
Oui,
non, je le dis à propos de nous tous.
Oui, mais laissez-moi juste terminer. Il y a des choses dans votre livre, simplement. Par exemple, sur votre récit de la façon dont s'est passée d'ailleurs la journée du 9 janvier sur les attentats à Dammartin et à l'Hypercacher, vous écrivez des choses factuellement inexactes et gravement inexactes. Donc moi, c'est ça qui me gêne. Évidemment, après, on va parler d'autres choses du débat, mais je veux absolument le dire, et je peux d'ailleurs, si on a le temps à un moment, le dire précisément, parce que c'est choquant. Moi, ça m'a beaucoup choqué, c'est choquant pour toute la rédaction. Vous racontez des choses entre les terroristes et nous, etc., qui sont totalement fausses, et en plus qui sont très faciles à vérifier, et qu'on a retrouvées dans la presse, dans des journaux sérieux comme Le Monde, l'Obs, depuis qui ont fait des enquêtes précises, et tout ça a été vraiment répertorié. Donc c'est quand même gênant d'écrire un essai sur l'exactitude de l'information en France, et la nécessité d'avoir une information exacte, et d'écrire des choses aussi gravement inexactes que vous le faites.
Hubert Huertas.
Donc, si je vous écoute, là, je me tais et je m'en vais.
Non, c'est pas du tout le but de l'émission, au contraire.
Je vais pas me taire et je vais pas m'en aller. Et puis, on est entre confrères et donc, on est au-delà de courtois. Et je répète encore une fois que j'ai écrit nous et j'ai pas écrit eux. Et je constate, et puis ensuite, on va sortir de ce type de débat, si vous voulez bien, que dans le récit que je fais, on va pas rentrer sur l'inexactitude, sinon on va y passer l'émission sur ceci, sur cela.
Bah, pardonnez-moi, c'est important, avez... c'est quand même notamment
oui,
des thèmes de votre
non,
livre.
Non, mais je vois que vous avez lu cela, mais que vous avez pas lu
si.
Que cette chaîne... Est-ce que vous venez de dire que j'ai écrit noir sur blanc que à ce moment-là cette chaîne était indispensable? Est-ce que vous avez lu ou est-ce que vous venez de dire que j'étais dans la rédaction de Mediapart? Vous savez que cette rédaction passe pour être sévère avec ses confrères. Et est-ce que je décris ou je ne décris pas cette rédaction qui est complètement regroupée autour des chaînes d'infos? Bon, alors dites-le aussi.
On va essayer de progresser.
Pardonnez-moi, là, je ne vous parlais pas de cela. C'est tout.
On va essayer de progresser sur le fond.
Non, mais vous ne parlez pas de ça parce que vous choisissez la vérité qui vous convient et qui me met mal à l'aise. Continuons, essayons de travailler et d'avancer.
On va essayer d'avancer. Alors justement, à lire votre livre, et après Michel Cotta prendra la parole, à lire votre livre, Hubert Huertas, il semble que la classe médiatique française dans son ensemble soit prise dans une forme de frénésie, dans une forme d'emportement dont BFM serait un symbole parmi d'autres. Alors, qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui dans le traitement médiatique général, en tout cas dans les grands médias ?
Ce que je reproche, et j'espère que ça ressort, c'est pas un reproche, c'est un constat. On a toujours dans ce métier, depuis que ce métier existe, et c'est normal. Je veux dire, on est là pour apporter des informations que les autres n'ont pas. On est là pour aller plus vite. Cette vitesse, cette rapidité, cette émulation a fait que, ici ou là, et je cite des exemples et j'ai pas besoin d'en citer, on a dérapé. Il se trouve qu'il y a eu une accélération formidable, une accélération extraordinaire qui est due naturellement à cette information qui revient, mais pas seulement. Hein, les réseaux sociaux jouent un rôle énorme.
On va en parler dans quelques instants.
En quelque sorte, notre moteur a pris une puissance fantastique. On est comme un avion qui a franchi le mur du son ou le mur de la lumière. On est une sorte de véhicule qui a maintenant un moteur de Ferrari et qui, quelque part, continue de rester artisanal et qui a des freins de 2 chevaux. Voilà.
Michel Cotta.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Une fois qu'on a dit ça, on prend conscience et on dit qu'il y a des chaînes d'information continue, on dit que, par définition, ça va vite, on dit que, oui, de temps en temps, il y a des erreurs qui se glissent, qu'on essaye de tout faire, évidemment, pour des erreurs, mais pour éviter ces erreurs. Maintenant... s'il faut arrêter les chaînes d'information continue, ça c'est autre chose. Quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a un effet démultiplicateur.
Oui, mais d'accord, démultiplicateur, qu'est-ce qu'on fait ?
Mais qui vous parle de supprimer les informations continues alors qu'à la deuxième page de mon livre qui en comporte 40, je dis qu'elles sont nécessaires et indispensables.
Et oui, mais alors une fois que vous avez dit ça, d'accord.
Ben on va poser la question à Hervé Bérou.
Je suis entièrement d'accord.
Directeur de l'information de BFM TV, vous avez reconnu parfois certaines erreurs. Alain Veil, le PDG du groupe Next Radio qui possède BFM TV, a installé un comité d'éthique après que le CSA vous a mis en garde, ainsi que d'autres médias, à propos du traitement des attentats de l'hypercacher. Alors, comment on fait pour corriger ça? Est-ce qu'on peut ralentir le tempo? Est-ce qu'on peut mettre un peu de liquide de refroidissement dans le moteur de la voiture?
Oui, on y travaille, évidemment. Évidemment, on a donc commis des erreurs, nous, d'autres, et on en a commis une importante, pas celle que relève M. Huertas, mais on a commis une erreur importante le vendredi 9 janvier, en disant que quand l'un de nos journalistes a dit que des otages de l'hypercacher pouvaient être cachés dans la chambre froide. Ça, c'était une erreur grave qu'on a reconnue. Depuis, une réflexion c'est vraiment engagée, encore plus qu'elle ne l'était avant. Cette erreur a été commise, hein, je reviens le 9 janvier, elle a duré 22 secondes à l'antenne. Ça, c'était une erreur grave qu'on a reconnue. Pour revenir sur votre question précédente.
Oui. Donc Comment améliorer les choses?
On y travaille. Et évidemment, notamment avec l'environnement des réseaux sociaux qui sont aussi extrêmement puissants et qui sont aussi une vraie possible mise en danger pour nous. Aujourd'hui, on l'a vu par exemple vendredi dernier, à cette heure-là, nous étions en train de couvrir les attentats de Tunisie, les attentats dans l'Isère, ou encore plus qu'on ne l'avait fait pour les attentats de janvier, nous n'avons mis à l'antenne aucune information qui n'ait été vérifiée, revérifiée par nos services police-justice, par nos informateurs. Toute la journée, nous avons passé énormément de temps avant de valider ces informations, à les vérifier, à les revérifier plutôt trois fois qu'une. Voilà. Bon, là-dessus, on a pris effectivement depuis quelque temps une exigence supplémentaire, la conscience d'une exigence supplémentaire.
Il est bientôt 8h30 sur France Culture. On va, pour nourrir le débat, donner la parole à Jean-Marie Charron. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue des médias, chercheur au CNRS. Jean-Marie, le Tout Info, qu'est-ce que c'est? C'est le journalisme ultime? C'est le journalisme absolu?
Bah, si vous voulez, le Tout Info, quelque part, c'est l'idéal du journalisme. C'est-à-dire que depuis que le journalisme existe, c'est la lutte contre le temps. C'est-à-dire cette idée que on essaye en permanence depuis, on va dire, le 16e, 17e siècle, de se rapprocher dans le traitement même de l'événement, de son déroulement. Et c'est vrai qu'avec l'information en continu, on a eu enfin la possibilité à la fois d'être dans l'instantanéité et puis de suivre l'événement sous forme de live, hein, c'est-à-dire dans sa continuité. Alors, je trouve qu'il y a peut-être un décalage par rapport au moment où nous parlons, dans la mesure où c'est, on l'a dit tout à l'heure, hein, CNN, c'était il y a plus de 30 ans. Et il y a eu effectivement, dans l'histoire de l'information en continu, de gros bugs. Moi, je ne citerai pas la France, je crois que je l'avais déjà cité à cette antenne ici, ça a été par exemple le siège du Parlement de Moscou, où CNN, à un moment donné, en analysant la situation et les autres télévisions qui étaient là, a pensé qu'il y avait eu un accord et puis que, en gros, la situation allait se régler. Et puis finalement, quelques temps après, on a appris effectivement qu'il s'était passé autre chose et qu'il y avait eu, en fait... Donc ça, je veux dire, on a ce recul dans l'histoire du traitement de l'information en continu, c'est-à-dire que, et petit à petit, on a appris probablement à gérer ça. Ouais, mais ce qui me semble complètement différent, et je crois que c'est un peu ce que suggérait Hervé Bérou, c'est que on n'est plus dans cette période-là. On est dans une période où il s'est opéré une rupture, de mon point de vue, où il s'opère sous nos yeux une rupture, dans laquelle, finalement, le rapport du public à des médias particuliers est en train, je dirais, non pas de disparaître, mais je dirais d'être relativisé. C'est-à-dire que hier, j'avais mon journal, ma radio, ma télévision. Aujourd'hui, on a une offre formidablement diversifiée de médias. Et puis surtout, on a des outils qu'un certain nombre d'entre nous, et notamment les plus jeunes, vont davantage utiliser pour leur recherche de l'information. C'est-à-dire que là où on avait une information, je dirais, de type vertical, c'est-à-dire les rédactions s'adressaient à un public, on est de plus en plus face à des rédactions qui, elles, ont un public qui circule à l'intérieur des contenus. Je fais pas
qui
forcément
zappe et qui passe de la télé à Twitter, à Facebook, à la radio.
Je vais arriver sur BFM parce que mes amis ou les personnes que je suis sur Twitter me donnent un lien.
Une alerte
et d'un seul
smartphone.
Coup, je suis sur BFM de la même manière qu'en général. Et là, c'est aussi quelque chose qui m'a un peu surpris à la lecture de l'essai. C'est-à-dire que de la même mesure, je ne crois pas qu'il y a un public uniquement de BFM. Il y a un public qui circule dans les médias. Et qui va de plus en plus aller, c'est-à-dire, ah, BFM dit ça, que dit ITL, que dit TF1, etc. Et le gros problème, effectivement, qui se pose à ce moment-là, c'est la question de la recommandation. La recommandation, alors, à la fois, elle peut nous emmener vers le très rapide, l'instantané, mais aussi, moi, ce que je constate, c'est qu'elle nous amène aussi vers le lent. Sur le même événement, on va me dire « Ah mais attends, sur tel réseau, il y a autre chose ». Et puis, elle nous incite aussi éventuellement à être acteur. J'ai une image, j'ai ces fameuses images qui ont été tournées, par exemple, à Sousse, et qui sont arrivées. Donc là, c'est des témoins. On l'avait vu à Londres au moment des attentats, on l'a vu au moment du tsunami, enfin, etc. Donc c'est une modification très, très radicale dans le rapport entre le public, la société et ses médias. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut réanalyser la question de l'information continue.
Michel Cotta souhaitait réagir.
La grande différence, c'est vrai, c'est qu'il me semble que le public est devenu adulte par rapport à ça. Il ne faut pas prendre les téléspectateurs, surtout les téléspectateurs de ces télés-là, pour des enfants de cœur. Quand ils voient une nouvelle un peu différente, qui sort un peu des normes, ils vérifient tout de suite. Et donc, on n'a pas du tout, il ne faut pas croire qu'on tient les téléspectateurs en otage et qu'ils croient ce que veulent dire les télévisions. Donc, un, ils sont adultes, et deux, ce que je voulais dire, c'est que les mêmes dérives existent aussi sur des télévisions qui ne sont pas continues. Quand on annonce la mort de Francis Bouygues sur la mort
Martin
de
Bouygues.
Martin Bouygues,
c'est l'agence France Presse.
Sur l'AFP, c'est l'agence France Presse. Alors, en plus, dans la nature même de la télévision, on peut corriger des choses. Alors, par exemple, dans le livre de Monsieur Huertas, il y a ce souvenir des corps découpés, comme vous savez, des corps couturés de Roumanie.
Timișoara.
Bon, Timișoara. Bon, ça a duré exactement 5 minutes. Il y a quelqu'un qui a vu les corps, qui était à l'antenne, et qui a dit, c'était pendant le journal de 13h, et qui a dit, ce sont des corps couturés, donc ce sont des corps torturés, etc. Et dans les 5 minutes qui a suivi, l'interprète roumaine a dit non, c'est pas ça. Je suis sûr que c'est pas
ça. Parfois, il
suffit
d'une mauvaise minute.
Et on a dit
non,
mais une mauvaise minute, c'est à partir du moment où 3 minutes plus tard, on dit non, on s'est trompé. Ça, la presse écrite peut pas le faire, effectivement. Quand la presse écrite annonce à la une que quelqu'un est mort, ils peuvent pas s'y reprendre. La télévision, mon Dieu, les gens sont assez adultes maintenant vis-à-vis de ça pour attendre quand il y a une information, pour prendre leur distance. Et c'est en ça que la télévision continue. Est en train de gagner la partie de la lenteur, ou de l'eau froide, comme vous disiez tout à l'heure.
Le secret des sources. Frédéric Mettezo.
J'aimerais rebondir avec vous, Hubert Huertas, sur ce que vient de dire Michel Cotta. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans la version moderne, et c'est un peu ce que vous dites dans votre livre, pour l'ensemble des médias, dans la version moderne de Lazareff, une information et un démenti, ça fait deux informations.
Ben parce que ça, c'est éternel. Hein. Mais je crois que on peut pas parler du problème éventuel que pose la nature des médias tout info, de son influence sur la société, en s'attardant uniquement sur des erreurs, sur des dérives, sachant que, j'espère que ça ressort dans mon livre, qu'il n'y en a pas davantage, même si la nature même du système médiatique fait que ça prend une ampleur. Et, comme le dit Michel Cotta, les démentis arrivent également plus vite. Il y a aussi une autre dimension dont j'aimerais parler, et qui là tient, au fond, à une question structurelle. La première chaîne Tout Info, c'était France Info. C'était une radio. Mais il y avait quelque chose d'assez différent dans France Info, c'est qu'on avait l'idée qu'on allait distribuer, résumer une info qui allait revenir en permanence. Et au fond, ce qu'on offrait, c'était au milieu de la place du village, il y avait un robinet d'eau fraîche et on pouvait venir boire quand on voulait, et plus seulement aux grandes heures. Mais il n'y avait pas quelque part la prétention de donner en permanence une info toujours nouvelle.
Et donc on était plutôt dans la répétition que dans le renouvellement, à vous nous entendre.
Et alors que il me semble que là, nous ne sommes plus... On a maintenant un cahier des charges, et je pense que ça pose un problème, qui est totalement intenable. Comment tenir l'antenne en apportant de l'info toujours chaude, de
toujours
l'info
neuve,
toujours nouvelle, sachant qu'il y a deux problèmes. D'abord, il n'y a pas d'info toujours chaude et d'info toujours neuve. Il y a des jours qui sont pas où l'info n'a pas de talent.
Comme on dit dans ensuite, le métier, il y a des jours sans actu.
Et ensuite, si vraiment on était dans ce monde-là où il se passe tout le temps, couvrir avec une centaine de journalistes dont 50 sont toujours en studio parce que les tableaux de service sont compliqués à faire avec une radio, c'est également impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on étire et on voit l'arrivée, et ça c'est quand même un phénomène marquant avec les chaînes d'info. Tout info, c'est-à-dire une grande masse de paroles. Et à ce titre, j'ai été très frappé par ce que disait Philippe Lançon lundi matin sur France Inter à Léa Salamé. Il disait la chose suivante. Il disait, on est entré dans la glose de l'information et ça, c'est insupportable. Trois jours après l'attentat, ça m'a amené à couper la télévision. J'étais à l'intérieur de cet événement et il était très difficile de le voir se diluer dans des paroles, dans des commentaires que je trouvais d'extrêmement basse intensité par rapport à ce que j'avais vécu. Si ça ne nous pose pas un problème collectif, eh bien alors, c'est que nous ne pensons pas la même chose.
Hervé Berrou, avez-vous le sentiment que parfois vos journalistes ou ceux des autres chaînes, et parfois France 2, TF1 font des spéciales, qui meublent à l'antenne?
Évidemment, on n'est pas dans la perfection. On essaye chaque jour de faire de notre mieux, mais il y a effectivement des moments où l'actualité est moins forte et effectivement des jours où elle a moins de talent. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que notre cahier des charges n'est pas de remplir avec l'antenne avec de pseudo événements, de les chercher. Il arrive effectivement que plein de fois où l'actualité n'a pas de talent, on se le dit et on regarde notre antenne en se disant bon, ça pourrait être plus excitant, ça pourrait être mieux, mais on ne se dit pas jamais évidemment dans aucune conférence de rédaction à BFM TV ou ailleurs, je l'imagine. Bon les gars, qu'est-ce qu'on construit là, qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on imagine.
On est ici à la maison de la radio et longtemps on a dit de France Info, ils répètent, ils rabattent. Ça se renouvelle pas beaucoup. Est-ce que pour essayer de faire évoluer le modèle, vous n'essayez pas de renouveler? C'est la différence entre l'information en continu et l'information continue.
Non, on n'essaye pas de renouveler. Quand l'information se renouvelle, on la renouvelle, mais encore une fois, ce n'est pas notre cahier des charges. Il y a quand même un élément important qu'il faut avoir en tête. Les téléspectateurs de BFM TV regardent en moyenne BFM TV 27 minutes par jour. Pas comme dans les ministères ou dans les rédactions, 10 heures par jour.
Et ça, c'est vrai, c'est allumé en permanence. Hein.
Mais oui,
je peux en témoigner.
Et souvent, ça donne une vision déformée des hommes politiques qui nous disent « Ah, mais vous répétez ça sans arrêt ». On le répète parce que les gens, ils arrivent à 16h, puis d'autres arrivent à 16h30, puis d'autres à 17h. Donc, les gens nous regardent moins d'une demi-heure parce qu'ils sont, comme le disait Michel tout à l'heure, adultes. Quand ils ont leur dose d'information, ils vont faire autre chose. Ils sortent, ils s'occupent de leur gosse, ils vont au cinéma. Ils passent pas leur journée tous dans leur canapé à regarder BFM TV les yeux ouverts.
Un tout petit mot de Michel Cotta avant d'aller aux États-Unis.
La glose de l'information, puisque c'est ça que dénonce M. Huertas. Mais je trouve, d'un autre côté, bien sûr, trop d'informations.
Le blabla.
Il n'y a pas, comme on disait, qu'il n'y avait pas d'image sans interprétation de l'image. Et ça, on le sait. On sait qu'à la télévision ou que n'importe quelle photo peut être détournée. Donc, il faut une explication de l'image. Je dirais que ça ne me gêne pas que l'information contiennent aussi une explication de l'information. Alors, quand on arrive à la glose, au bout de 4 jours, on redit la même chose. Bon, ça, Huertas a raison. Mais que sur le moment, il y ait entre une information, un expert, un responsable de ce qui se passe en Afghanistan, ou je ne sais pas, qui viennent dire voilà comment les choses se passent, moi, ça ne me gêne pas. Au contraire, je trouve que ça ajoute quelque chose.
Il est bientôt 9h moins le quart. Vous écoutez France Culture. Bonne route si vous partez en vacances. Rafraîchissez-vous. One nation under God has turned into one nation under the influence of one drug. Television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links are United States of unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive.
The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. TV is the reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is the new headache remedy.
Michael Franti, Television, Drug Nation. Good morning, Pierre-Yves Dugas.
Good morning, Frédéric Mettezo.
Pierre-Yves Dugas, correspondant de Radio France aux États-Unis. Vous vivez en Amérique depuis, allez, on va le dire, depuis plus de 30 ans. D'abord, Pierre-Yves, vous allez peut-être tuer un mythe. Aux États-Unis, très, très peu de gens regardent CNN.
Oh là là, oui. Il y a trois chaînes d'information continue à la télévision aux États-Unis. Elles sont toutes câblées, elles sont toutes donc payantes. La première, de très loin, c'est Fox News. Elle fait trois fois plus d'audience que CNN. Et derrière CNN vient MSNBC. Si vous voulez les chiffres du second trimestre, en prime time, de 8h à 11h du soir, Fox News, 1 600 000 téléspectateurs, CNN, 560 000, MSNBC, 512 000. Dans la mesure où des gens regardent l'information continue à la télévision aux États-Unis, et ça c'est une grosse hypothèse, parce qu'en fait l'information continue n'est pas tellement regardée que ça aux États-Unis, ce qu'ils regardent c'est d'abord Fox News. CNN c'est une télévision qui est regardée beaucoup par les journalistes français, beaucoup dans les aéroports, beaucoup dans les hôtels, mais l'Américain qui vote, l'Américain qui a du temps, l'Américain qui est retraité, l'Américain qui se passionne pour la politique et qui est plutôt de droite, qui est plutôt conservateur, il va regarder Fox News et il est ravi de regarder Fox News, qui est un succès commercial extraordinaire et qui a complètement changé le paysage de la télévision aux États-Unis et de l'information continue qui avait été inventée par CNN en 1980.
CNN avait inventé un modèle, Pierre-Yves, le Cycle News, le cycle de l'actualité. Qu'est-ce que c'est en réalité ce Cycle News qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein?
Oui, oui. Le News Cycle existait déjà, hein, mais les chaînes d'information continue l'ont solidifié. Ben, le News Cycle, c'est le temps, 12 heures, 24 heures, 48 heures, 72 heures, pendant lequel on va recycler un minimum de sujets. Les chaînes d'information continue, pour des raisons économiques, pour des raisons de simplicité, d'organisation, doivent beaucoup choisir des sujets, et le moins de sujets elles choisissent, le plus facile c'est pour les traiter. Et quand on a le News Cycle qui est contre vous, quand on a des vedettes, des candidats, une entreprise, des personnalités politiques qui font l'objet d'une controverse, on tombe dans ce cycle qui va recycler l'information pendant 24 heures, qui va presser ce citron jusqu'à la peau. Ça peut être très difficile. Et du coup, on a une situation, je pense que c'est un peu vrai en France aujourd'hui, mais c'est certainement vrai aux États-Unis, où les politiques, par exemple, finalement, passent beaucoup de temps à gérer le News Cycle plus qu'à gouverner. Et les chaînes d'information continue se sont laissées instrumentaliser, en quelque sorte, et vice-versa. Et cette espèce de relation symbiotique entre le politique et la chaîne d'information continue fait que les uns utilisent les autres, particulièrement aux États-Unis, où le président a très peu de pouvoir propre et où il doit passer son temps à convaincre le Congrès, convaincre l'opinion. Et dans ces cas-là, rien de mieux que cette tribune permanente que lui offrent les informations, les chaînes d'information continue.
Michel Cotta souhaite intervenir à court instant, Pierre-Yves Dugas.
Oui, parce que je trouve que ça, c'est le vrai problème des chaînes d'information continue. C'est que les hommes politiques se savent écouter, se savent repris. Ils sont repris très souvent quand ils sortent. Je vois très bien les hommes politiques qui d'ailleurs ne sont pas tellement connus et qui n'ont pas grand-chose à dire sortir de n'importe quelle séance de l'Assemblée nationale. Les caméras les attendent et ils passent en boucle toute la journée une phrase sans importance. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation ? C'est ce que vient de dire votre correspondant. Est-ce qu'à la limite, il ne pourrait pas y avoir de la part des hommes politiques qui sont alors quand même des malins, hein, ce n'est pas des enfants de cœur, plus que, au moins autant, sinon plus que les journalistes. Moi, je crains de temps en temps une tentative d'intervention, de déstabilisation ou de domestication de la chaîne de télévision continue.
Voilà. Tiens, puisque le débat est ouvert et Pierre-Yves Dugas reste en ligne avec nous, on va entendre Hubert Huertas sur ce point. Avez-vous le sentiment, Hubert Huertas, vous avez été de longues années journaliste politique et vous commentez toujours la politique sur Mediapart, que nos hommes, nos femmes politiques, nos élus ont modifié leur façon de faire, leur façon d'être pour s'adapter au canon de l'information en continu ?
Ça me paraît parfaitement évident et j'ai pas du tout la sensation que ce soit pour domestiquer les chaînes d'information continue. Il y a
une manière, au contraire, d'intégrer une certaine pression, un certain nombre de règles, et finalement de jouer parfaitement le jeu et d'accepter, de la part des politiques, d'accepter de devenir des personnages. Je crois que les politiques ont eu le sentiment que l'information continue leur faisait danser la danse de Saint-Guy. Alors, ils ont décidé de devenir maîtres de ballet, et ils deviennent eux-mêmes pourvoyeurs de danse de Saint-Guy.
Vous le dites autrement, mais c'est ce que je voulais dire.
Vous êtes d'accord, et on va entendre également le commentaire d'Hervé Bérou. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à force de multiplier les plateaux, les interviews en direct, on a un peu désacralisé la parole politique? Avant, quand François Mitterrand prenait la parole, c'était un événement. Quand Jacques Chirac prenait la parole, c'était encore une information. Aujourd'hui, quand François Hollande ou Manuel Valls ou Laurent Fabius interviennent, c'est presque devenu classique. Comme nous le disait Pierre-Yves Dugas, Barack Obama est tout le temps à l'antenne.
C'est vrai que quelque part, l'information continue à désacraliser la parole politique. Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est une évidence. En revanche, ce qu'il faut quand même noter aussi, c'est que nous avons ouvert la parole politique. À l'époque de TF1 et Antenne 2, en résumé, qui pouvait prendre la parole dans ce pays? Qui pouvait passer aux 20h plus de 20 secondes? Le président de la République, le Premier ministre, le chef de l'opposition. Voilà. Sinon, c'était 10 secondes dans un sujet d'une minute 30. Voilà. Et pas plus, il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, des gens qui ne sont pas le président, le Premier ministre ou le chef de l'opposition peuvent venir sur nos plateaux, avoir, je ne sais pas, chez Jean-Jacques Bourdin le matin, 20 minutes pour s'exprimer.
Chez Bruce Toussaint, sur iTélé, oui, pour parler de tout le monde.
Évidemment, je vous parle de voilà.
De chez évidemment, vous, c'est normal.
C'est chez tout le monde. Voilà, chez tout le monde. Donc chez Routel-Krieff le soir ou chez Laurence Ferrari, de la même façon, on a des interviews qui durent un quart d'heure ou 20 minutes. C'est quand même autre chose de pouvoir s'exprimer pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Ça n'est peut-être pas toujours passionnant,
mais c'est quand même autre chose,
de pouvoir s'exprimer pendant un quart d'heure. On le voit bien dans votre émission, on a du temps. C'est différent que d'avoir 15 secondes à la radio ou à la télé.
On va retrouver Pierre-Yves Dugas, correspondant de France Culture aux États-Unis. Pierre-Yves, la grande différence entre les États-Unis et la France, c'est que les chaînes d'information continue chez vous en Amérique, eh bien, elles sont politisées.
Et oui, parce qu'il n'y a pas de réglementation du temps de parole aux États-Unis. Les télés, les radios sont libres de donner la place qu'elles veulent à qui bon leur semble. Alors, le temps où les deux ou trois ou quatre grands réseaux, ces fameux networks, dominaient l'audience et révolu, CBS, ABC, NBC, etc. L'audience nationale est très fragmentée aujourd'hui, il y a des centaines de chaînes, sans parler des réseaux sociaux. Et dans ce contexte, pour choisir son audience et la fidéliser, il est important de l'avoir bien ciblée, de bien la comprendre et de lui servir ce qu'elle a envie d'entendre. Et c'est ce qu'a très très bien fait Fox News. Et c'est assez spectaculaire d'observer Fox News qui a très bien su saisir ce public écœuré par les networks traditionnels qui considèrent que CBS a toujours roulé pour le Parti démocrate et que jamais on entend la voix de l'Amérique patriotique et conservatrice. Et Fox News a fait un coup commercial extraordinaire, sans parler de son importance dans le jeu politique aujourd'hui. Mmh. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que la gauche américaine a essayé de faire pareil et il n'y arrive pas. MSNBC a essayé de faire du Fox News de gauche, Al Gore a essayé de le faire, et il n'y a pas ce succès commercial. Peut-être, en tout cas c'est ce qu'on dit à Fox News, parce que la gauche américaine est déjà représentée dans les networks et donc elle ne peut pas faire mieux que ce qui est déjà proposé par ABC, CBS et les autres.
Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas, très bonne journée aux États-Unis. Hervé Bérou.
Oui, juste pour dire que dans ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose de très important, c'est que Fox News, ça ne peut pas exister en France parce qu'il y a le CSA.
L'étendard-parole du CSA.
Ben oui, mais c'est très important. Fox News, parfois c'est difficile pour nous, voilà, mais c'est important. Fox News n'invitera jamais quelqu'un de gauche, entre guillemets. Voilà.
Parce qu'ils ne sont pas obligés de rééquilibrer.
Voilà, Fox News ne se pose pas ce genre de questions. Nous, on est obligés d'y passer.
C'est comme la presse écrite. Alors, chacun choisit son Le Figaro, Libération. Je ne suis pas sûr que ce soit un progrès pour la télévision. Moi.
Le secret des sources.
Dernier rendez-vous de l'émission avec Thibaut Henton, chroniqueur réseau et multimédia. Bonjour Thibaut.
Bonjour Frédéric.
On a beaucoup parlé de BFMisation, mais on pourrait parler aussi d'e-téléisation et de LCisation. Vous souhaitez nous parler plutôt de la Twitterisation, c'est un autre phénomène qui influe profondément notre travail.
Oui, je me suis demandé si on assistait en parallèle d'une hypothétique BFMisation de la vie médiatique, donc à une Twitterisation de celle-ci. Point Vocabulaire, tout d'abord, faut-il dire twitterisation ou tweetisation? Bon, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui regrettait dans une récente interview le poids pris par les réseaux sociaux dans le débat public et dénonçait sa tweetisation, donc, tout en disant y être accro, je cite, chaque propos est désormais résumé, tronqué, caricaturé, de sorte que la critique est facile, se plaignait-elle. Il me semble qu'elle inverse un peu la responsabilité, en l'occurrence, si Twitter favorise certainement la petite phrase en limitant les tweets à 140 caractères, ne négligeons pas la responsabilité des professionnels de la politique eux-mêmes en matière d'appauvrissement du débat public à force d'éléments de langage. Nous ferons des copeaux avec leur langue de bois. Madame Vallaud-Belkacem en sait quelque chose, elle a été porte-parole du gouvernement. Donc pointer la responsabilité de Twitter, mettre sur le dos de la tweetisation de l'information qui, elle, ne fait aucun doute. Twitter, entre autres, s'est clairement imposé comme un nouvel intermédiaire. La BFMisation du débat public serait cependant tout à fait injuste. D'abord parce que Twitter est un outil dont chacun se saisit comme il veut, là où le contenu proposé par BFM repose sur les choix d'une rédaction hiérarchiquement organisée. Ensuite, parce que Twitter s'actualise de manière chronologique, là où BFM est bien obligé de se répéter. Mais si BFMisation est le nom d'une dérive, on en discute ce matin, tweetisation n'est jamais que le nom d'un changement technologique. Axiologiquement neutre, au moins dans un premier temps, le nom d'une réintermédiation, dirons-nous, réintermédiation entre producteurs et consommateurs d'informations. À la fois, donc, un nouveau convoyeur d'infos et un nouveau filtre de celle-ci, filtre social selon les comptes auxquels vous êtes abonné. Tweetisation désigne donc l'accélération et la démocratisation de l'info. Et tout cela soumet certainement BFM à une rude concurrence, c'est certain. Mais ça les oblige en même temps à être d'autant plus méticuleux. On en revient toujours au principe de base du journalisme, vérification, recoupement, déontologie, laquelle a ses garants, Michel Cotta par exemple. Mais puisque l'on parle du rôle...
Il a eu de faire beaucoup d'erreurs.
Mais puisque l'on parle du rôle des intermédiaires, c'est moins BFM et ses millions de téléspectateurs dont il faudrait se préoccuper, 10 millions par jour vraiment. Oui. Un Français sur 6, ça me paraît énorme, mais bon, je vous crois.
10 millions par jour, 36 par mois.
Donc c'est moins de BFM dont il faudrait se préoccuper, si je puis me permettre. C'est plutôt de la Facebookisation. Facebook qui réunit aujourd'hui, je le rappelle, 1/5 de la population mondiale. Vous n'êtes pas encore là. C'est en effet imposé comme la principale source d'information pour 1/3 des adultes, selon des chiffres américains. Dans le même temps, 60% des utilisateurs de Facebook disent ignorer que l'information qui leur est servie est filtrée par un algorithme, sachant que cet algorithme de Facebook prend, lui, en compte environ 1000 paramètres pour déterminer ce qui s'affiche ou non. Vous mesurez un peu l'écart entre cette connaissance quasi absolue de l'entreprise d'une part et l'extrême ignorance de ses clients de l'autre. Donc, le problème de la Facebookisation, c'est avant tout le problème d'un filtre dont les critères sont largement secrets, à l'inverse du filtre BFM dont les acteurs, eux, sont tout à fait identifiables. Je vous donne un dernier chiffre. Vous allez très vite voir les problèmes que pose le rôle grandissant joué par Facebook comme média d'information algorithmiquement biaisé. 6%, c'est en moyenne ce que Facebook affiche dans le flux d'un utilisateur, 6% de l'ensemble des informations qui sont partagées par son réseau. Vous imaginez donc tout ce qui passe à la trappe, et ceux qui gagnent à ce petit jeu, ce sont ceux qui ont les moyens de booster l'audience de leur poste en payant directement Facebook. Et cette dépendance des médias à Mark Zuckerberg ne fait que commencer. Il y a quelques semaines, celui-ci annonçait ainsi le lancement de Instant Articles, un partenariat avec plusieurs médias qui publieront désormais directement leurs articles sur la plateforme. En échange, Facebook promet de leur verser des recettes publicitaires. Mais alors, que se passera-t-il si l'un de ses partenaires se met à publier des infos dérangeantes sur la plateforme elle-même? L'algorithme les glissera-t-il discrètement sous le tapis? La Facebookisation de la vie médiatique qui est une vassalisation, comme l'écrivait le blog L'An 2000 de Libé. Voilà Frédéric, un sujet pour la saison prochaine.
La saison prochaine du Secret des Sources. Merci Thibaut Henton. Je vais demander à chacun un mot conclusif pour terminer ce dernier Secret des Sources de la saison. Hubert Huertas, à entendre Thibaut Henton, notre chroniqueur réseau, finalement, on se rend compte que le support ou le canal est aussi important, voire plus important que le travail fourni par le journaliste.
Il y a du juste, et il y a beaucoup de juste dans cette chronique, et il y a une foule d'idées. Bon, ensuite, je n'irai pas jusque là où vous venez de me conduire.
Ça veut dire que le journaliste reste encore maître de son travail.
Mais
Mais bien sûr que le journaliste reste encore maître de son travail. Je voudrais préciser, juste avant de finir, que je suis, moi, un spectateur des télés d'information et que, par conséquent, mon projet est d'analyser cette importance et que mon projet, en aucun cas, est de m'en priver. J'ai un tout petit regret, c'est qu'on n'a pas parlé des éditions spéciales. Et je crois qu'on aurait pu dire beaucoup de choses à ce sujet. Mais comme
on pourra faire ça à la rentrée.
Et ben on va pas les dire.
Avec Frédéric Barrère. Merci Hubert Huertas en direct de France Bleu Vaucluse. Hervé Bérou et le mot de la fin à Michel Cotta. Sur le support, on a entendu Thibaut Henton qui nous parlait de la Facebookisation. Il y a beaucoup de Sion. C'est quelque chose que vous avez intégré, vous, la dimension réseau. Est-ce que finalement, cette chaîne toute jeune qui est BFM TV n'est pas déjà presque dépassé par ce qui est en train de se passer sur les réseaux, Twitter, Facebook, Periscope?
En tout cas, c'est un outil de travail pour nous, un outil d'alerte, mais en aucun cas ce qui se passe sur Facebook, ce qui arrive sur Twitter, n'est pour nous une information. Ça, on l'a clairement intégré.
Et vous n'avez pas peur que ce soit vos principaux concurrents?
Mais ce sont déjà des concurrents, oui, en effet. Mais à la fois, tout a bougé. Aujourd'hui, c'est plus qui l'a évoqué tout à l'heure, on peut tout à fait regarder BFM TV tout en regardant son compte Twitter.
Le double écran, comme ça.
Le double écran, voilà.
C'est ce que nous faisons tous. Voilà. La seule chose qui est sûre, c'est que notre système de consommation des journaux, de l'information, va changer, qu'elle n'a pas encore entièrement changé, mais qu'avec tout ce que vient de nous dire notre jeune confrère, elle va changer davantage encore. Le problème est de savoir où est la manipulation et où sera la vérité. Voilà.
Et ça ne fait que commencer. Merci à vous tous. Hubert Huertas, journaliste à Mediapart. Hervé Bérou, directeur de l'information de BFM TV. Michel Cotta, journaliste qu'on ne présente plus. Thibaut Henton, Jean-Marie Charon. Pour terminer, le clin d'œil de Yacine Bouzard. Et si France Culture devenait une chaîne d'information continue? C'est de la fiction. Exemple avec Antoine Mercier à 12h30.
Bon Antoine, on est prêt?
Ouais, c'est bon. Quand tu veux.
Eh ben quand tu veux, ça tourne.
Le président américain Barack Obama officialisera aujourd'hui le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba. Depuis 1977, les deux pays séparés seulement par le détroit de Floride.
Non, c'est pas bon ça.
Quoi,
c'est pas bon, c'est trop mou, il manque des phrases choc.
Bah qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Il faut que tu changes, il faut que tu vendes.
Je veux bien essayer.
Si tu peux réécrire tout ça.
Ouais. Ok, on y va. Barack et Castro, ils ont fait à Miami, ça s'était pas vu depuis un max de temps, ils vont rouvrir leur résidence.
Attends, Antoine.
Ouais.
On va mettre de la musique.
Ah, d'accord.
Pour ajouter un peu de dramaturgie.
D'accord.
Et tu nous le fais, mais il faut qu'il y ait du punch.
Ok.
S'il te plaît.
Barack et Castro, ils ont fait à Miami, c'est bon comme ça?
Ouais, c'est parfait comme
okay.
ça. Ok. Attends, on va la refaire maintenant, on va relancer la musique.
Barack et Castro, ils ont fait à Miami, ça s'était pas vu depuis un max de temps. Ils vont rouvrir leur résidence et il y aura sous peu du Big Mac à La Havane. C'est bon comme ça?
C'est parfait.
Ok.
Toi.
L'effet LCI, ITélé, BFM sur le journal de midi et demi de France Culture, c'était bien sûr une fiction, comme toujours à la fin du Secret des Sources, clin d'œil signé Antoine Mercier et Yacine Bouzard. C'est la fin du Secret des Sources, dernier numéro de la saison, mais le débat continue sur Twitter et Facebook. L'émission peut être téléchargée et commentée via notre site franceculture.fr. Mais surtout, le Secret des Sources revient à la rentrée, toujours le samedi de 8h10 à 9h, avec Frédéric Barrère. Un grand merci à toute l'équipe fidèle au poste depuis le début. Mathias Mégy à la préparation, Vincent Abouchard à la réalisation, Jean-Frédéric c'était aujourd'hui à la technique. Très bel été à tous, à l'écoute de la belle grille estivale de France Culture qui débute après-demain, lundi. À 9h05, après le journal, la réplique d'Alain Finkielkraut. Au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'être allemand? Bonne journée à tous.
On a maintenant un cahier des charges qui est totalement intenable. Comment tenir l'antenne en apportant de l'info toujours chaude, de
toujours
l'info
neuve.
Toujours nouvelle? D'abord, il n'y a pas d'info toujours chaude et d'info toujours neuve.
Il arrive effectivement que plein de fois où l'actualité n'a pas de talent, on se le dit et on regarde notre antenne en se disant bon, ça pourrait être plus excitant, ça pourrait être mieux.
Je dirais que ça ne me gêne pas que l'information contiennent aussi une explication de l'information. Alors quand on arrive à la glose, au bout de 4 jours, on redit la même chose. Bon, ça, Huertas a raison.